Attention, 30 secondes avant départ. Vous n'oublierez pas, bien sûr, de diffuser du sourire.
La chronique de Gilles Labouroir. Le sport entre histoire et société.
Cette semaine, les chroniques de Gilles s'intéressent aux premières Coupes du monde de football, celles de 1934 et de 1938, gagnées par l'Italie. Quand arrive la Coupe du monde 1934, Benito Mussolini est au pouvoir en Italie depuis 12 ans. C'est un pouvoir répressif, violent, traversé de meurtres, d'enfermements et de disparitions. L'Italie est un pays fasciste. Les chemises noires sèment la terreur et c'est exactement pour cela que le Duce veut la Coupe du Monde. Il souhaite montrer au reste de la planète les bienfaits de l'ordre et de l'organisation. Jules Rimet et la FIFA ne sont pas trop regardants sur les droits de l'homme. Des affiches géantes montrent Hercule en footballeur et levant le bras pour le salut fasciste. Deuxième nation au classement des médailles des Jeux Olympiques de 1932 derrière les États-Unis, l'Italie ne veut pas perdre sa Coupe du Monde. Pour cela, l'entraîneur Vittorio Pozzo a organisé le recrutement de joueurs sud-américains d'origine italienne, les Oriundi, qui avaient pourtant représenté d'autres pays, comme les Uruguayens ou les Argentins, lors de la première Coupe du Monde en Uruguay en 1930. La polémique l'indifférait. Pozzo a dit « S'ils peuvent mourir pour l'Italie, ils peuvent jouer pour l'Italie ». Il est bon de rappeler ici la phrase de Luis Borges, écrivain argentin, au sujet de la définition d'un argentin. Les Argentins descendent de bateaux, comprendre des bateaux venus d'Italie. Parmi eux, Luigi Monti, déjà un boucher avec l'Argentine, encore un boucher avec l'Italie, notamment en quart de finale contre l'Espagne à Florence, où un arbitre belge refuse le but de la victoire à un Espagnol qui réussit l'exploit d'être signalé hors-jeu après avoir dribblé quatre joueurs italiens. L'Italie se qualifiera en match d'appui sur un but de Giuseppe Meazza. Ensuite, ce sera la demi-finale face à l'Autriche, un but à zéro. En finale, il faudra une prolongation à l'Italie pour battre la Tchécoslovaquie, 2-1. Les Italiens brandissent la Coppa del Duce, remise par Mussolini, 6 fois plus haute que la Coupe Jules Rimet de la FIFA. Ensuite, à l'occasion des Jeux Olympiques de 1936 à Berlin, l'Italie remporte le tournoi contre l'Autriche, 2-1. 4 années plus tard, à Paris, en 1938, l'Italie va conserver son titre. L'Italie bat en quart de finale la France, 3-1. En demi-finale, le Brésil, 2-1. Avant de battre en finale la Hongrie, 4-2. Mussolini leur avait lancé « Gagner ou mourir ». Les Italiens avaient gagné, mais d'autres allaient mourir bientôt. Rien n'y a fait, malgré la présence en France en 1938 de nombreux exilés italiens antifascistes et l'hostilité d'une partie du public français. L'Italie remportera 2 nouveaux titres en 1982 en Espagne, grâce à Rossi, son avant-centre, et en 2006 en Allemagne, sur la fameuse coup de tête de Zidane. Vittorio Pozzo est un des plus grands entraîneurs, surnommé le vieux maître, il Vecchio Maestro, né en 1886 à Turin, disparu en 1968. Il avait donc mené l'Italie de Mussolini à la victoire dans 2 Coupes du Monde, en 1934 en Italie, en 1938 en France, ainsi que dans le tournoi de football des Jeux de Berlin 1936. Il a eu un parcours d'étudiant à Manchester, de joueur en Suisse, les Grasshoppers, et a rejoint l'Italie en 1906. Il était un haut dirigeant de Pirelli. Il a étudié jusqu'à 9 langues. Il a organisé le recrutement de joueurs sud-américains d'origine italienne. À ce jour, il est le seul à avoir remporté 2 Coupes du monde de football en tant que sélectionneur. En 1939, la Seconde Guerre mondiale éclate et le monde du football se fait plus discret. Il faut attendre 1948 pour de nouveau voir la sélection italienne dans une compétition. Il s'agit des Jeux Olympiques de 1948, mais l'Italie perd en quart de finale contre le Danemark, 5 buts à 3. Il s'agit du dernier match de Pozzo à la tête de la sélection italienne. À partir de 1948, il devient journaliste à la Stampa, où il commente les matchs internationaux de l'Italie. Il décède à la fin de l'année 1968, juste après avoir vu l'Italie remporter un nouveau trophée majeur, le championnat d'Europe. Giuseppe Meazza, surnommé El Divino, est né le 23 août 1910 à Milan. Il est décédé le 21 août 1979. Le stade de Milan s'est longtemps appelé San Siro, le nom du quartier où il est posé, majestueux et vieillissant. Et c'est ainsi que les Milanais continuent de le désigner, le plus souvent surtout les fans de l'AC Milan. Par contre, les supporters de l'Inter rendent plutôt volontiers hommage à Giuseppe Meazza, gloire des années 30, 216 buts en Serie A, champion du monde en 1934 et capitaine de l'équipe champion du monde en 1938. L'ancien enfant pauvre des faubourgs de Milan, qui avait perdu son père sur le front italo-autrichien de la Grande Guerre, a commencé à travailler dès 13 ans dans une fabrique de ceintures. Cet attaquant d'une taille relativement petite, 1m69, intègre donc l'équipe première du club milanais à 17 ans. Meazza remporte avec le club milanais le championnat d'Italie à 3 reprises, en 1930, 1938, 1940, dont il est le meilleur buteur en 1930, 1936 et 1938. Il apparaissait dans les publicités pour le martini et du dentifrice. Certains prétendaient qu'il avait plus de maîtresse qu'il n'avait marqué de but. Malgré une vie connue comme dissolue, il impose rapidement son talent au niveau international. Sélectionné pour la Coupe du Monde de 1934, il y est titulaire. Il marque 2 buts, dont le seul du quart de finale face à l'Espagne, et remporte finalement la compétition avec la Squadra Azzurra. 4 ans plus tard, il participe à la Coupe du Monde de 1938 en France comme capitaine. Après avoir éliminé les Français en quart de finale, les Italiens battent les Brésiliens grâce au 33e et dernier but international de Meazza, puis les Hongrois en finale. Il avait gagné le cœur de l'Italie. Il se reconvertit comme entraîneur. Il dirige plusieurs équipes italiennes sans obtenir de résultats probants. Il travaille par la suite comme journaliste sportif. Un intellectuel italien a bien connu jeune cette décennie dorée de la Squadra Azzurra. Il s'agit de Pier Paolo Pasolini, né en 1922 à Bologne. En 1930, avec la Juventus et Milan, Bologne est une place forte du football italien. Pasolini, un intellectuel de l'après-guerre, une sorte de Jean-Paul Sartre ou Jean Genet italien, qui participera au scénario de films de Fellini et Bertolucci. Il s'installe ensuite à Rome, après sa période antifasciste dans le Frioul. La reconnaissance viendra avec son film « Mamma Roma », qui sort en 1950 et qui raconte l'histoire d'une prostituée dans les bas-fonds de Rome. Pasolini fréquente Alberto Moravia, Elsa Morante, les grands écrivains italiens proches du Parti communiste italien. Il sera exclu du Parti communiste en 1949 pour indignité morale, mais l'UNITA, l'organe de presse proche du Parti communiste, l'envoie en 1957 pour faire une chronique sportive sur le derby romain de la 8e journée du championnat italien, Lazio-Roma contre l'AS Roma. Amoureux du football, Pasolini ne fait pas paradoxalement la chronique du match, mais il raconte ce qui se passe dans les gradins avec les supporters, les tifosi, ces paysans immigrés de l'Italie du Sud qui existent et se reconnaissent dorénavant par le football. Il décède en novembre 1975, à l'âge de 53 ans, assassiné sur une plage d'Ostie. Un crime crapuleux par un gamin de 17 ans, un repris de justice, mais on sait maintenant que Pasolini a été battu à mort par 4 ou 5 assassins proches de l'extrême droite qui voulaient détruire un symbole, l'antifascisme, et surtout l'incarnation d'un aspect prophétique d'une Italie corrompue, qui sera aussi plus tard celle de son football. Son maillot d'attaquant numéro 11 sera déposé sur son cercueil.
C'était la chronique de Gilles Labourroir, à retrouver en podcast sur le site d'Esprit Occitanie.